Bonjour à chacun. Bon, je crois qu'il y en a qui n'ont pas envie de me dire bonjour ce matin. Ça commence plutôt bien là. Hein? Aïe, aïe. Nous sommes heureux d'être là ce matin, c'est une grâce. Hein? Soyez bénis au milieu de nous, vous peut-être qui nous rejoignez ce matin, de passage ou pour quelque temps, sur la merveilleuse ville d'Angers. Frères et sœurs, c'est vrai que, je ne sais pas pour vous, mais plus on avance avec Dieu, enfin avancer, façon de dire, plus Dieu nous aide à aller de l'avant, je dirais peut-être les choses comme ça, et mieux on se rend compte que, en fait, Dieu, même si nous le savons déjà, je dirais mentalement, intellectuellement, on se rend plus compte que Dieu ne change pas. Il ne change pas. Il ne changera pour personne, il ne changera même pas pour lui-même. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit que le Dieu de la Bible est un Dieu en qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Vous savez, il m'arrive quelquefois dans mes prières de dire à Dieu, « Seigneur, je suis rassuré de te connaître, d'être ton enfant, parce que je sais que ta nature t'interdit de changer. » Je lui dis ça, je dis ta nature, je dis tu ne peux pas changer. Quand je prie Dieu, je lui dis, Seigneur, tu ne peux même pas me tromper, c'est impossible. Comment tu pourrais? Tu ne peux pas. Oh, Sandara, tu ne peux pas. Dieu ne peut pas me tromper, Dieu ne peut pas changer. Je lui dis ça, je dis, Père, quel que soit ce que je... Oh, frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients ce matin que notre Père, Dieu ne peut pas changer. Ah, Seigneur, donne-moi la force ce matin. Dieu ne change pas, c'est sa nature première. Toute chose demeure en lui, par lui et pour lui. Faisons-lui confiance. Moi, je souffre de voir les enfants de Dieu souffrir. Parce que nous avons notre propre évangile. Un évangile qui est lié à notre expérience personnelle de notre vie. Et parfois, à cause de nos expériences qui ont de la valeur, bien sûr, nous plaçons la parole de Dieu en dessous de notre expérience. Et là, Dieu dit, toi et moi, nous ne pouvons plus faire chemin ensemble. Frères et sœurs, ce n'est pas l'objet de mon message ce matin, c'est peut-être pour encourager quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui ce matin se dit, mais j'ai l'impression de ne plus voir Dieu dans ma vie. J'ai l'impression de ne plus ressentir la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de ressentir la présence de Dieu avec tes cinq sens. Non, crois ce que Dieu te dit. Il a dit qu'il est avec toi tous les jours. Il n'a pas dit qu'il est avec toi rien que le dimanche. Ne sois pas rassuré que quand tu viens ici, comme ce matin, ou que quand tu viens aux réunions de la semaine, non, sois rassuré que Dieu est avec toi. Je me rappelle, justement, l'été, avant que je vienne poursuivre mes études ici à Angers, je travaillais dans une mégisserie, hein, une tannerie où on traitait le cuir. Et là, il fallait que je me lève très tôt le matin, à 5 heures à peu près, parce que je n'avais pas de moyen de locomotion pour y aller à pied, pour commencer le boulot. Et puis là, j'avais peur sur le chemin. Je disais, mais oui, j'ai peur, je me lève la nuit, je marche, même si je suis en ville. Je dis, mais j'avais quand même peur. Et puis en rentrant chez moi ce jour-là, je me suis mis placé devant Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai peur. Ce que je vous dis n'a rien à voir avec, je ne sais pas, le mysticisme, frères et sœurs. Quand j'ai prié Dieu, je me suis placé dans la présence de Dieu. Je vous dis honnêtement comment les choses se sont passées. Le lendemain, quand je me suis mis en chemin pour aller au travail, j'étais conscient qu'il y avait deux anges autour de moi. Amen. Je ne les voyais pas physiquement, mais je savais qu'il y avait. J'étais conscient qu'il y avait la présence avec moi. Depuis ce jour-là, je n'ai plus eu peur. Je marche. C'est pour cette raison que quelquefois même devant vous, il m'est arrivé de dire « Satan est un petit ». Non pas par rapport à moi, mais par rapport à celui qui est en moi. C'est pour ça que je n'ai pas peur de Satan. C'est pour ça qu'il ne peut rien me faire. C'est pour cela qu'il n'a aucune autorité dans ma vie. Il n'a plus aucun pouvoir dans ma vie. Tout ce qu'il peut venir faire dans ma vie, c'est parce que je lui donne accès. Dès lors que je ne lui donne pas accès par la haine, par le ressentiment, par le manque de pardon, par toutes ces choses qui empoisonnent notre âme, Satan, comment peut-il avoir accès à ma vie? Jésus a dit, le malin n'a rien de lui en Jésus. Si nous sommes de Jésus, tel est notre Seigneur, tel nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Amen. C'est cela, frères et sœurs. L'évangile n'est pas compliqué. Non, ne nous prenons pas la tête, frères et sœurs. Soyons conscients. Dieu a dit qu'il est avec nous. Moi, c'est ma plus grande sécurité. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Non. Je ne compte pas sur ma prière que je vais faire le matin en disant, Seigneur, accompagne-moi. Mais non, mais le jour où je ne prie pas, qui va m'accompagner? Vu que je compte sur ma prière pour que Dieu m'accompagne. Ça, c'est la religion. Un enfant, il est conscient que son père le protège, il est avec lui et puis c'est terminé. Il n'y a pas besoin, non. On prie juste parce qu'on a besoin d'être en communion avec notre Père. C'est peut-être une parole pour quelqu'un ce matin. Mon message, le titre de mon message ce matin, c'est « Prends position et tu verras la gloire de Dieu ». Tu prends position et tu verras la gloire de Dieu. Ah oui, ça plombe l'ambiance là, hein. C'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous aimons bien parler de la part que Dieu doit faire, n'est-ce pas? On est tous un peu comme ça, vous en conviendrez, hein? On est tous un peu comme ça, on aime bien parler de ce que Dieu va faire pour nous. Rarement on parle de ce que nous, nous devons faire. Ah oui, et on nous a dit, ben écoutez, vous savez, le christianisme, tu te convertis, tu te fais baptiser, bon, si le Saint-Esprit n'est pas trop méchant avec toi, il te tombe dessus, tu fais rababa, shikababa, rababa, tu pries en langue, et puis tu attends que Jésus revienne, tu vas au ciel. Ah ben c'est ça, non? Mais non, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit que nous sommes appelés à régner dans cette vie. Moi, je suis étonné quand les chrétiens me disent, on va régner au ciel. Tu vas régner comment? Il y a un seul roi. Tu vas régner où? Il n'y a que Jésus qui est roi. On va être les sujets du roi, c'est tout. On va régner où? On ne va pas régner au ciel. Quand on dit on règne avec lui, ça dit qu'on sera heureux de voir notre maître régner. C'est lui le roi des rois. C'est lui qui règne. Nous, nous sommes appelés à régner sur la terre. Comme étant quoi? Des ambassadeurs de Christ, messagers de paix, de joie, messagers d'amour, messagers de justice. Nous sommes appelés à régner avec toutes ces choses. Pas besoin d'armes, pas besoin de violence, non. L'amour. C'est la plus grande arme qui puisse exister. Et c'est avec cette arme que Jésus a vaincu l'ennemi, oui ou non? Est-ce que Jésus a plié les poings pour battre Satan? Non, il l'a battu avec l'amour. Satan a été dérouté, il n'a rien compris. Il s'attendait à un combat de titans. Jésus a dit, ah oui, toi tu viens avec la haine. Si moi je reviens aussi avec la haine, rien ne va marcher. Alors je viens avec quoi, l'amour? C'est cela, frères et sœurs. Prends position et tu verras la gloire de Dieu. Que faut-il faire pour prendre position? Est-ce que c'est une option de prendre position? Non, frères et sœurs. Prendre position est une obligation pour chaque enfant de Dieu, pour chaque être humain qui a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. En acceptant Jésus comme Seigneur, sauveur et Seigneur, c'est la première chose que nous avons faite pour prendre position, justement. Nous avions notre façon de vivre. Nous ne le connaissions pas. Il était loin de nous. Nous étions éloignés de lui. Par nos pensées, par nos sentiments, par nos vaines manières de vivre, par notre péché. Alors Jésus, lorsqu'il est venu, en l'acceptant, nous avons pris position. Et chaque jour dans notre vie, nous prenons position. Ça veut autrement dire juste faire des choix. Le choix de Dieu. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est renoncer à soi-même pour suivre Jésus. La première chose, et on va lire un premier texte dans l'évangile de Marc, voici ce que la Bible nous dit, Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir, pardon, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire, dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Ce sont les paroles de Jésus, ce n'est pas paroles lyriques, frères et sœurs. Je vous livrerai un petit secret. Vous voulez que le monde des ténèbres vous respecte? Prenez position pour Dieu. Aujourd'hui, nous sommes ce qu'on appelle le monde évangélique, le monde protestant. Vous savez à cause de quoi, de qui? D'une seule personne que Dieu a suscité, Martin Luther. Il a pris position contre tout et envers tous. Il a dit, j'ai découvert que l'être humain, Dieu dit dans sa parole, que l'homme n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la foi, par la grâce, au moyen de la foi. Il a pris position, c'est parce qu'il a pris position que nous sommes là aujourd'hui, frères et sœurs. Il a été excommunié, il a été vilipendé, il a été raillé, il a été moqué, il a été même persécuté, mais il a pris position. Il est resté ferme parce qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Luther a renoncé à lui-même. Il avait le prestige, c'était un moine, prêtre, il avait le prestige. Mais il a renoncé à toutes ces choses pour s'attacher à la parole de Dieu et de ce fait s'attacher au Dieu de la parole. Est-ce que Dieu a manqué d'élever Luther? Non. Aujourd'hui, tout le monde parle encore de Martin Luther, oui ou non? C'est cela. C'est cela, frères et sœurs. Il a pris position, cet homme. Jésus nous dit qu'il y a un processus pour pouvoir le suivre. Et il dit la première chose que vous devez savoir, vous devez renoncer à vous-même. Il dit, renoncer à vous-même, pourquoi? Parce que si on ne renonce pas à soi-même, il est difficile de faire une alliance avec quelqu'un. C'est comme un mariage, quand on est célibataire. Mais on vit comme on a envie. C'est ça, frères et sœurs. Mais dès que l'on se marie, c'est fini. C'est terminé. Il faut tenir compte de qui? De l'autre, et vice-versa. Ça, c'est très important. On ne peut plus vivre comme quand on était tout seul ou toute seule. On a besoin de tenir compte de l'autre. Et ça, c'est important. Et si on ne le fait pas, on court vers un échec. Avec Dieu, c'est la même chose. Jésus dit, il faut que vous sachiez une chose. Si vous ne renoncez pas à vous-même, vous ne pouvez même pas faire un pas pour le suivre. C'est la première chose, c'est le béaba. Mais pourquoi Jésus nous appelle? À quoi et pourquoi nous appelle-t-il à renoncer? Mais la Bible nous le dit dans l'épître aux Philippiens, lorsque l'apôtre Paul dit de Jésus qu'il a fait quoi? Qu'il s'est humilié lui-même. Il a renoncé à quoi? À toute sa gloire. Pour faire quoi? La volonté de Dieu. Ce à quoi Dieu nous appelle à renoncer, c'est d'abord à ça. C'est ça qui fait que les chrétiens aient des difficultés. La mentalité. Ce n'est pas Satan. Moi, j'entends les chrétiens. Écoutez, quelqu'un me disait encore hier à Cholet, « Oh oui, il y a un frère qui voulait aller quelque part, il a oublié ses clés. C'est une attaque de Satan. » J'ai dit, « Arrêtez. » Arrêtez avec ces choses-là. Je dis simplement, ce frère, il n'est pas organisé, c'est tout. Ou il a oublié ses clés, c'est tout simple. Arrêtez de voir Satan partout. On trouve des échappatoires avec Satan, des excuses avec Satan. Heureusement que Satan ne peut plus venir dans la présence de Dieu. Il ne peut plus se plaindre, il doit se dire, waouh, c'est sûr que j'ai inventé le mensonge, mais eux, ils ont dépassé, ce sont des élèves qui ont dépassé le maître. Non, mais c'est incroyable. On oublie les clés, c'est Satan. On a un pneu crevé, c'est Satan. Mais non. Non. Moi, hier, en allant à Cholet, j'étais en plein dépassement. Il y a une femme, je ne sais pas, elle n'a pas vu me voir. Elle était derrière un camping-car. Elle voulait dépasser au même moment. J'ai juste klaxonné, elle s'est rabattue, j'ai avancé. Je n'ai même pas pensé un seul instant que c'est Satan. Je continue à chanter mes louanges. Je ne suis pas... Non, Satan va venir. Il fait ses trucs. Bon, chacun a son petit business. Chacun fait son truc. C'est ça, frères et sœurs. Si tu ne renonces pas à toi-même, la mentalité, comment tu penses, ton système de pensée, hein? Si tu ne renonces pas à ta propre gloire, à tes propres projets, tu ne peux pas. Comment veux-tu que tu t'associes à quelqu'un? C'est impossible. C'est la première chose. Parce que Jésus lui-même a renoncé à sa gloire. L'apôtre Paul dit que Jésus est devenu un simple homme, c'est-à-dire comme vous et moi. À quoi l'on sait que Jésus est devenu un simple homme? Il mangeait comme vous et moi. Est-ce que Dieu mange? Non, il a été dépouillé de sa divinité, de sa substance divine. Il mangeait comme vous et moi, il dormait, il buvait du mauvais vin de... Bon, il ne faut pas leur dire à nos amis. Hein? Ils sont trop loin de Bordeaux, c'est pour ça. Frères et sœurs, renoncez. Si l'on ne renonce pas, on a du mal. C'est la première chose que Jésus nous demande. Et la deuxième chose, il dit que nous devons nous charger de notre propre croix. Ah! Et là, on se dit, mais c'est bizarre. Si Jésus a déjà porté la croix, pourquoi moi, encore aujourd'hui, je devrais porter ma croix? Ah ben oui, la croix que Jésus a portée, c'est la grande croix. Mais toi, tu as la petite croix. Tous les jours, tu as ta propre croix. Et la croix, là, quelquefois, j'ai entendu les chrétiens dire, ah mais oui, c'est la maladie. Non, ça n'a rien à voir. Non. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la souffrance. La croix, là, c'est la chair. C'est ça, c'est la chair. Si c'était la maladie, autrement dit, les gens qui sont dans le monde, ils sont malades aussi, non? Non, c'est pas ça. La croix, c'est la chair. C'est-à-dire faire passer les choses spirituelles avant les choses, avant tes propres plaisirs. C'est ça la plus grande difficulté dans la vie chrétienne, oui ou non? Si on est honnête, c'est ça le vrai combat que nous avons. Le vrai combat que nous avons, c'est de pouvoir déclarer et justement de vivre ce que le prophète Jean-Baptiste a dit. En disant, je veux que lui fasse quoi? Grandisse et que lui diminue. On a du mal. Souvent, c'est nous qui sommes plus grands que Dieu et Dieu nous le mettons à la seconde place. Mais Dieu dit non, moi ce soit la première ou rien. La croix, c'est cela. C'est notre chair, les désirs de notre chair. C'est cela qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est pour cette raison que Dieu va nous dire, je n'ai pas affiché ce texte, dans l'épître aux Romains au chapitre 12, il va dire, il faudra que nous fassions deux choses. La première, parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, frères et sœurs, ni notre âme, ni notre corps n'ont bougé, ils sont restés les mêmes. C'est la naissance spirituelle, c'est l'esprit qui est né de nouveau. Alors comment un esprit né de nouveau peut fonctionner avec une âme qui n'est pas né de nouveau, avec un corps qui est resté le même? Vous avez remarqué en sortant du baptistère, si vous aviez, hein, c'est resté. Il y en a peut-être qui ont prié, ah Seigneur, en sortant, pourvu que ça disparaisse, c'est bientôt l'été. Mais c'est resté. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est né de nouveau. Mais comment un esprit né de nouveau peut fonctionner avec une âme qu'on appelle le vieil homme, qui est habitué à son ancienne vie, avec un corps qui a été habitué, dont les sens ont été habitués à certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu? Comment fonctionner? Dieu nous donne la réponse, justement dans Romains 12. Il dit, il faut que tu livres ton corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Ça, c'est la première chose, le corps. Il dit, tu dois le livrer. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans 1 Corinthiens, la Bible nous dit que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu qui nous a sauvés par son Fils, Jésus-Christ. Et la deuxième chose, il dit, maintenant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans quel but? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il te donne la solution pour ton corps et ton âme. L'âme, c'est l'intelligence. Notre intelligence est dans l'âme. Donc il te dit, le corps, tu dois le donner à Dieu. Tu ne peux plus faire de ton corps ce que tu as envie. Et il te dit, ton âme, il faut qu'elle accepte le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que dans une autre épître, l'apôtre Paul nous dit que l'homme sans Dieu, il vit selon ses propres penchants, selon ses pensées. Et il a l'intelligence obscurcie. Mais cette intelligence, donc quand nous naissons de nouveau, l'esprit est bien né de nouveau, mais notre intelligence est toujours obscurcie. Elle ne peut être renouvelée que si nous marchons selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça le secret. C'est pour cette raison que tu peux prier, jeûner. Moi, des fois, je vois les gens, je ne rigole pas, je dis seulement, quelle souffrance inutile. Toi, ton âme n'est pas renouvelée. Tu peux prier, jeûner. C'est comme quelqu'un qui n'a pas enlevé, vous savez, vous arrosez, vous n'avez pas planté la bonne semence, vous arrosez vos terrains là, qu'est-ce qui va pousser? Oh, là vous mentez. Ce sont les mauvaises herbes. Eh oui. Si vous dites rien du tout, c'est pas vrai. Les mauvaises herbes qui vont pousser. C'est ça, frères et sœurs. Chargeons-nous de notre propre quoi? C'est notre chair. En général, la façon dont nous nous regardons là, la Bible nous dit que les œuvres de la chair sont évidentes, oui ou non? C'est quoi? C'est les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, toutes ces choses, les convoitises, les excès de table, comme un peu hier, nous en avons fait un tout petit peu, que Dieu nous pardonne, alléluia. C'est cela, frères et sœurs, toutes ces choses. Mais la Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, hein, la bonté, la maîtrise de soi, la générosité. Oui ou non? C'est cela, non? Frères et sœurs, c'est ça la croix. La croix, ce n'est pas la maladie, non. Non, non, ce n'est pas la souffrance, non. La plus grande croix que Jésus a d'abord portée, c'est quoi? Mais c'est celle de se dépouiller lui-même de sa divinité. Ce n'est pas simple. Vous imaginez Dieu qui n'est plus Dieu. Il est Dieu juste dans sa substance, mais plus dans sa capacité. C'est pour cette raison que Jésus a eu besoin du Saint-Esprit pour pouvoir justement faire son ministère, renoncer. Donc nous avons besoin de toutes ces choses. Les afflictions, combien supportent les afflictions? Dès qu'on te fait une remarque, ça y est, c'est fini. Tu casses tout le monde dans l'église. Tu vas dans une autre église, tu dis là-bas, 5 rues de Bretagne, ils sont méchants, ils sont mauvais. J'y suis allé, personne ne m'a même regardé. Mais je ne retournerai plus jamais là-bas. Tout ça pourquoi? C'est la chair. C'est la chair. Parce que la chair a ceci de particulier, c'est qu'elle est même capable de vous faire croire que quelqu'un vous en veut alors que la personne ne vous en veut pas. Et lorsque votre chair se dirige sur ce chemin-là, il y en a un qui se délecte, il s'appelle Satan. Il te conforte, il te dit, mais c'est vrai, regarde ce frère-là. Il a louché même pour te regarder. Il t'a toisé, il ne t'aime pas. Et toi, tu rentres chez toi, tu ressasses ça. Ah mais oui, il ne m'aime pas. Regarde comment il m'a regardé bizarrement. Et tu mets en place quoi? Une forteresse. Et cette pensée-là, elle va faire quoi? Elle va produire quelque chose. Elle va donner du produit. Et le produit, c'est quoi? C'est que tu peux avoir l'amertume, du ressentiment inutilement. Jésus dit deux choses sont indispensables. Pour cette raison, pour prendre position, nous avons besoin de renoncer d'abord. Nous avons besoin de nous charger nous-mêmes de notre propre croix. C'est pour ça que la Bible ne dit pas que c'est Dieu qui veille sur notre cœur, frères et sœurs. Non. Dieu dit, c'est à nous de veiller sur notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est dans notre cœur qu'il a mis quoi? Toutes les sources de la vie. Toutes les sources, c'est ce que Proverbe nous dit. Veille sur ton cœur, frères et sœurs. Donc nous avons besoin de comprendre ces choses-là, renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus. Sans le renoncement, on ne peut pas. Chargé de notre croix. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est s'accorder avec Dieu pour entrer dans ses projets. Moi, je suis surpris, les chrétiens. Souvent, j'entends les chrétiens dire, « Seigneur, merci parce que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. » C'est vrai. Mais au ciel, il n'y a pas que le livre de vie. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Au ciel, il y a aussi le livre des œuvres. Il y a plusieurs livres au ciel. Il y a plusieurs livres au ciel. Beaucoup seront surpris quand ils vont arriver dans la présence de Jésus. Jésus va dire, regarde. Regarde un peu ta fiche d'emploi. Il n'y a rien dessus. Tu as dit, mais Seigneur, j'étais médecin, j'étais avocat. Je mangeais même les avocats aussi. Pour bien faire mon métier. Oh, j'étais un grand ponte de la médecine, j'étais ceci, j'étais cela. Seigneur, je faisais bien mon boulot. Dieu dit non. Écoute, si c'est sur la base de cela, donc tout le monde a fait quelque chose. Puisqu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont avocats, oui ou non, qui sont médecins. Ça bouillonne dedans, frères et sœurs. Dieu nous a dit quoi? Qu'il a préparé des œuvres exprès. Avant que toi tu ne viennes au monde, avant que moi je ne vienne au monde, Dieu avait déjà préparé ce que toi et moi devions pratiquer. C'est dans ça que nous devons rentrer. C'est dans ça. La destinée naturelle de David, c'était berger, oui ou non? Sa destinée naturelle, c'était d'être berger. Et il faisait bien son boulot de berger. Mais la destinée divine pour David, ce n'était pas d'être berger. Dieu avait déjà marqué que David sera quoi? Roi. Mais pourtant, David, en étant berger, ne savait pas qu'un jour il serait roi. Mais comment la royauté de David s'est manifestée? Parce qu'il a d'abord été un bon berger. Fais du bon boulot auprès de ton chef d'abord, mon ami. Dieu te regarde. Si tu ne fais pas du bon boulot, Dieu te dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses-là, il ne peut pas te confier de grandes choses. David a été fidèle comme berger, mais il est passé de sa destinée naturelle à la destinée. C'est pour cette raison. Frère, ne vous sentez pas vraiment visé. Hein, s'il y a des médecins, non, j'ai rien contre les médecins. Hein, j'aime beaucoup les médecins. Vous nous faites beaucoup de bien, vous nous soulagez énormément. Les avocats, vous nous défendez énormément. J'ai rien contre tout. C'est pas parce que j'ai dit médecin, avocat, que j'ai quelque chose contre ces corps de métier-là. Non. Non, 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 frère et sœur, rien du tout, rien. Rien de tel. Simplement pour dire que nous devons comprendre que Dieu a préparé des choses d'avance pour que nous les pratiquions. Et nous allons lire tout de suite un texte dans Amos. Voici ce que la Bible nous dit pour que nous puissions comprendre. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seul parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Dieu pose le débat. Jésus nous a dit, il faut que nous renoncions, il faut que nous nous chargeons de notre croix. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit que deux personnes ne peuvent pas emprunter le même chemin si elles ne sont pas au préalable d'accord. C'est impossible. C'est pour cette raison que ce que notre salut est considéré comme étant une alliance que nous avons faite avec Dieu par Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas rentrer dans l'alliance avec Dieu si nous ne sommes pas au préalable d'accord avec Dieu. C'est la moindre des choses. Il faut que nous soyons d'accord. Et si nous ne sommes pas d'accord avec Dieu, nous aurons du mal. Mais pour être d'accord avec Dieu, nous devons avoir renoncé à nous-mêmes. Nous charger de notre propre chair, notre propre croix. Et c'est seulement alors que nous pouvons être d'accord avec Dieu. C'est ce que Dieu nous dit dans Amos. Pourquoi? Quand il dit le peuple que j'ai fait sortir d'Égypte, c'est le salut. Ça a été le salut pour le peuple d'Israël. Tout comme nous, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Dieu nous dit qu'il va nous châtier pour nos iniquités. Mais il dit, mais attention, deux personnes ne peuvent marcher ensemble que si elles sont concertées. Et dans le texte qui suit, le texte d'Ésaïe, que nous connaissons très bien, voici ce qu'il est marqué. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu te donne le secret de Dieu. Il te dit que lui, en fait, il travaille avec la parole. Hier, je disais au Cholte, je disais, la parole est pour Dieu ce qu'est le médicament pour le médecin. Le médecin peut vous avoir fait le meilleur diagnostic qui puisse exister. Mais si à la fin, vous n'avez pas un traitement, justement pour pouvoir pallier à la maladie qu'il a détectée, est-ce que ça va vous soulager? Et si le médecin vous prescrit un traitement, vous allez chez votre pharmacien, vous récupérez les médicaments, vous entrez ensuite chez vous et vous posez les médicaments sur, je ne sais pas, votre table, le chevet ou je ne sais pas où, vous ne les consommez pas. Est-ce que ces médicaments vous seront d'un grand secours? Non. Est-ce que vous êtes en droit de repartir chez votre médecin pour lui dire, mais docteur, mais voilà, je suis rentré chez moi depuis la dernière fois, mais rien n'y va toujours. Quelle est la question que le médecin va vous poser d'abord? Avez-vous bien pris votre traitement? Dieu, c'est la même chose. Dieu te dit, est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que tu pratiques sa parole? Il te dit que lui, il fait toutes choses avec la parole. Il guérit avec la parole. Il console avec la parole. Il restaure avec la parole. Il édifie avec la parole. Il encourage avec la parole. Il fait tout avec la parole. Il crée avec la parole. Il te dit, est-ce que tu pratiques sa parole? C'est ce qu'il te dit. Il te dit, vu que nos pensées ne sont pas les siennes, ni nos voix ne sont pas les siennes, il dit, ses pensées sont au-dessus des nôtres, et ses voix sont au-dessus des nôtres. Mais il vaut mieux donc obéir, marcher selon justement la parole de ce Dieu-là. Ah, tu n'es pas d'accord, hein? C'est cela, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre secret. Dieu fait tout. L'apôtre Jean l'a bien repris. Dans le premier chapitre de son évangile, il dit au commencement, Dieu, en fait, la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Et tout ce qui a été fait par la parole. Et rien n'a été fait sans la parole. Et nous, lorsque nous écoutons la parole comme aujourd'hui, ce matin, nous nous disons, ben ouais, moi j'attends juste que ça finisse, finis ton discours et puis moi je suis parti. J'attends dimanche prochain. Si ça me plaît, je verrai. Si ça me plaît, ouais, je vais peut-être essayer de faire quelque chose, je vais réagir. Mais si ça me plaît pas, je continue ma vie. Dieu dit, il n'y a pas de problème, mais tu auras des difficultés dans ta vie. Parce qu'il te dit que sa parole est prépondérante. Et c'est ce qu'il a dit à Jérémie. Il a dit qu'il ne veille sur aucun homme. Il ne veille sur aucune femme. Mais il veille sur quoi? Sur sa parole. Afin de quoi? De l'exécuter. C'est pour cette raison que quand tu es enfant de Dieu, si tu es attaché à la parole de Dieu, Dieu sera toujours en train de te suivre. Je ne suis pas en train de mépriser Dieu. Non, il va te suivre parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Il va te suivre. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a donné un rêve à Joseph. Dieu est allé avec Joseph où? En Égypte. Quand on a mis Joseph dans la citerne, Dieu était où? Dans la citerne avec Joseph. Quand on l'a mis, on l'a vendu à Potiphar. Dieu est allé dans la maison de Potiphar avec Joseph. Quand on a mis Joseph en prison, Dieu est allé avec Joseph en prison. Quand on a sorti Joseph de la prison, Dieu est sorti avec Joseph de la prison. Et quand Joseph est sorti de la prison, Dieu a élevé Joseph. Alléluia. C'est comme ça. Si tu tiens compte de la parole de Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Toujours avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Prends position pour la parole de Dieu. Laisse tes pensées de côté. Laisse tes voix de côté. Choisis la vie de Dieu. Et tu verras que Dieu lui va t'élever. Tu vas voir la gloire de Dieu. C'est ce qui s'est passé un jour alors qu'un homme religieux avait sa fille de 12 ans qui agonisait. Et ses serviteurs sont venus lui dire, alors qu'il abordait Jésus pour que celui-ci lui vienne en secours. Ses serviteurs vont venir dire à Jaïrus, ce n'est plus la peine d'importuner le maître, ta fille vient de décéder. Et vous savez, Jésus va lui donner quoi? Est-ce que Jésus va lui dire, oh écoute mon frère, non, il va lui donner quoi? La parole. Parce que Dieu fait toi que la parole. Il va lui dire, ne crains pas, crois seulement. Jaïrus a pris position. Il aurait pu dire à Jésus, bon ça y est, c'est bon, je suis venu, tu as voulu faire le nécessaire, mais là on m'a dit qu'elle est décédée, on arrête tout par là. Mais il a fait quoi? Il a cru la parole de Jésus ou non? En croyant la parole de Jésus, sa fille est ressuscitée. Oui. C'est ça l'évangile. Tu prends, à chaque fois que tu prends position, Dieu est avec toi. Tu vas peut-être subir des railleries, des difficultés, des épreuves, mais quand tu prends position, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est pour cette raison qu'il te dit, nos pensées sont tellement petites devant les siennes. Et nos voix sont petites également. Il dit, alors il faut qu'on s'attache à sa parole. Parce que sa parole a toujours un but. Donc nous avons besoin justement, pour entrer dans les projets de Dieu, nous devons d'abord harmoniser nos pensées avec les pensées de Dieu. Nous devons d'abord être d'accord, ensuite harmoniser nos pensées. Ne plus penser pour nous-mêmes, mais penser pour Dieu. Dans quel but ? Nous allons lire dans la diapo qui suit, dans Malachie. Dieu dit, un fils honore son père, un serviteur son maître. Dieu dit aux enfants d'Israël, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Et il va dire, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Ah, Jésus a dit à l'apôtre Jean dans Apocalypse que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Donc nous sommes sacrificateurs. Cette parole s'adresse à nous aussi. Dieu dit, s'il est notre Père, si quand on harmonise nos pensées avec Dieu et que l'on marche avec les pensées de Dieu du moins, et que l'on marche désormais dans les voies de Dieu, ça devient simple pour nous d'honorer Dieu. Ce n'est plus un problème. Ça devient tellement simple d'honorer Dieu. Ça devient simple de craindre le nom de Dieu. On ne vit plus n'importe comment. Et quand il y a ces choses-là, la gloire de Dieu est manifestée. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. La Bible nous dit que les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ils se dégageaient une crainte au milieu du peuple. Et à cause de cette crainte, il se faisait des miracles et des prodiges par les apôtres. C'est toi et moi, mon frère, qui créons une atmosphère pour que le Saint-Esprit de gloire soit manifesté. C'est toi et moi, mon frère, ma sœur. C'est toi, ton attitude et mon attitude vont déterminer si Dieu va agir. Oh, frères et sœurs, c'est ça qui va déterminer. Si Dieu va manifester sa gloire, parce que nous allons prendre position, tout comme les premiers chrétiens ont pris position, ils persévéraient, c'est-à-dire ils étaient attachés aux enseignements. Et quand on dit attaché, ce n'est pas avec un fil, c'est-à-dire qu'ils prenaient les enseignements au sérieux et ils les mettaient en pratique. Ils n'avaient pas la Bible comme nous l'avons. Frères et sœurs, est-ce que tu honores Dieu ? Est-ce que tu crains le nom de Dieu ? Et lorsque tu honores Dieu et que tu crains son nom, Jérémie nous dit maintenant, les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, sont des projets de paix et non de, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parce que tu honores Dieu, parce que tu crains son nom, tu rentres enfin dans les projets de Dieu. Tu rentres dans le repos de Dieu, même lorsque tu passes désormais par des temps difficiles, ton âme n'est plus agitée. Tu n'es plus ballotté à gauche et à droite, dans les extrêmes. Tu restes au centre, chez notre ami FB. Ah là, vous cherchez un FB. Frères et sœurs, c'est cela. Prenons position. Prenons position. Regardons ensemble rapidement quelques exemples bibliques. Vous connaissez l'histoire de Daniel, on va vous afficher juste la première diapo, c'est vraiment tout un chapitre pour comprendre, mais on ne va pas le lire en entier, juste la première diapo. Vous savez, pour ceux qui connaissent la Bible, peut-être pour les amis qui nous rejoignent ce matin, Daniel, c'est un jeune juif qui va être déporté avec pas mal de juifs, donc de sa contrée où il vivait, dans un royaume étranger à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar va donc écraser, on va dire, battre Jérusalem et emmener en déportation des jeunes juifs et il va les choisir. Vous voyez, l'immigration choisie ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'était pas une immigration celle-là, c'est un peu forcé. Il les a amenés et Daniel va avoir trois amis fidèles qui s'appellent Azaria, Michaël et Anania. Donc ils vont être quatre compagnons. Et parmi ces quatre compagnons, les trois compagnons de Daniel, justement, qui vont être baptisés par le roi de Babylone, Meshach, Shadrach, Meshach, Abednego. Il va les rebaptiser comme ça pour leur donner le nom, justement par rapport à leur culture. Meshach, Shadrach, Abednego. Il va leur donner ces noms-là et ils vont travailler à la cour du roi. Ils vont travailler pour le roi. Je vous passe les détails. Et puis à un moment, le roi, justement, va construire une grande statue. Et le but du roi, c'est que tous les hommes de son royaume viennent se prosterner devant la statue. Et les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils vont refuser de se prosterner devant cette statue. Et il y a des hommes qui travaillent pour le roi, qui vont faire le compte-rendu au roi comme quoi, alors que tu as pris la décision en construisant cette statue, en fabriquant cette statue, que tout être humain qui est sous ton règne devait se prosterner devant cette statue et que quiconque ne le ferait pas serait puni. Mais de quelle manière? En étant jeté dans la fournaise ardente, dans les flammes de feu. Et les trois amis de Daniel ne vont pas accepter, justement. Ils vont refuser. Et lorsque la nouvelle va arriver aux oreilles du roi, celui-ci va convoquer, il va douter un peu parce que les trois Hébreux travaillaient à la cour du roi. Donc le roi, il va douter, il va se dire, est-ce que c'est vrai le rapport que lui fait, que lui font certains de ces, ces hommes les plus proches. Et là, le roi va convoquer les trois Hébreux. Il va leur dire, maintenant devant moi-même, il va répéter le même scénario. Il va faire sonner les trompettes, les instruments de musique. Et il va demander aux trois Hébreux, à la fin du son de chaque instrument de musique, vous allez vous prosterner devant la statue que j'ai fait fabriquer. Et là, vous savez ce que les trois Hébreux vont lui répondre? Ils vont dire, on ne va pas se prosterner devant ta statue. Pas devant tes dieux. Il dit, le Dieu que nous servons va nous délivrer de toi, ô roi. Le Dieu que nous servons va nous délivrer. Oui, il dit, on ne va pas sauver tes dieux, mais lui, il va nous délivrer. Et là, le roi va mettre la sentence à exécution. Il va les faire mettre dans la fournaise ardente. Et ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est que ces hommes ont pris position. Ah oui, nous souvent on a peur pour notre vie. Quelquefois, ce n'est même pas pour notre vie. En France, je ne dirais pas encore que c'est pour notre vie que nous avons peur. Nous avons peur pour notre dignité. On n'a pas envie de parler de Jésus parce qu'on se dit, je ne veux pas qu'on me considère pour un fou. Je n'ai pas envie d'aller à Sainte-Gemme. On ne prend pas position pour Dieu. Ces trois-là, ils étaient dans un royaume étranger. Ils savaient que leur vie dépendait du roi. Ils ont été mis dans la fournaise ardente. Ce qui est extraordinaire, c'est que le roi lui-même, alors qu'il les avait mis tous les trois dans cette fournaise, lorsqu'il va regarder dans la fournaise ardente, il verra que rien ne se consume. Mais au contraire, il va dire, je les ai mis trois là-dedans, mais ils sont quatre maintenant. Oh, alléluia! Ils sont quatre, c'est ce que le roi va dire. Il dit, ils ont été... Mais n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement. Merci Marido, tu es efficace. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien. Mais le quatrième est sorti d'où? Et regardez ce que le roi va dire. Quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième, c'est pas comme les trois autres que j'ai jetés, elle ressemble à celle d'un fils de Dieu. Oh, alléluia! C'est cela, frères et sœurs, quand tu prends position pour Dieu, comme je vous en ai parlé à l'instant pour Joseph, Dieu sera avec vous même dans la fournaise ardente. Il est avec toi, parce que tu prends position, tu vas voir sa gloire. Tu vois sa gloire, parce que tu prends position. Mais si tu dis, je veux ma vie, ah, je fais attention, Jésus dit, moi aussi j'aurai honte de toi. Eh oui, vous savez, quand je préparais ce message, je pensais à une de mes nièces qui m'a raconté qu'elle était, avant de tomber enceinte, une charmante demoiselle, comme on aime à le dire, parce qu'elle était comme ça. Elle mangeait les spaghettis, ça doit être pour ça. Elle était comme ça. Et puis l'homme avec qui elle a fait l'enfant, parce qu'au sortir de ça, en fait, de l'accouchement, elle a du mal à perdre les kilos. Et l'homme ne prend plus plaisir à elle, dans sa présence. L'homme n'a même plus envie de présenter ma nièce à ses amis. Il a tellement honte. Ce que je vous dis là, pourquoi je vous le dis? Il a honte d'elle. Mais elle a commencé par quoi? Finir par avoir honte de lui aussi. C'est ce que Jésus veut nous faire entendre ce matin. Que quand tu as honte de lui, c'est une façon de dire, si tu le rejettes, lui aussi il va faire quoi? Il va te rejeter. Il va te rejeter, frère et sœur. Je vais vous donner un petit témoignage rapide. Quand j'étais encore ici à Angers, je faisais mes études. J'étais là, je brûlais en moi. Je disais, Seigneur, comment je peux faire en sorte que tous mes collègues sachent que je suis chrétien? Ça brûlait. C'est là, c'est mon identité, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime que les gens sachent de moi, c'est ça. C'est ça. J'ai dit, comment, Seigneur? J'étais pas à l'aise. Et puis, un jour, je rentre dans une salle de culture, au labo. Là, il y a un collègue qui me pose la question. Une question anodine, peut-être. Il me dit, que penses-tu de l'homosexualité? Oh, je ne vais pas vous faire un message sur l'homosexualité. Je vous dis juste ce que je lui ai dit. Je dis, je suis contre l'homosexualité, mais j'aime les homosexuels. Oh, mais ça, c'est bizarre, hein? Il dit, mais je comprends rien. Je dis, je suis contre l'homosexualité, mais j'aime les homosexuels, il n'y a pas de problème. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé par discuter. Il m'a dit, mais oui, mais... Je dis, mais tu sais, moi, je suis chrétien. Bam! Et j'étais content. Ah oui! Et là, il me dit, mais comment toi qui es scientifique, tu peux croire au créationnisme? Ah, j'ai dit, voici le boulevard. Nous, on n'a pas les chances éligées. J'ai dit, le boulevard Foch est devant moi. Je dis, tu veux savoir pourquoi? Ok! On était deux à la base. Deux se sont rajoutés. Le chef du labo est rentré. On s'est retrouvé 15 ou 17 dans la pièce. Et là, je leur ai dit, je les ai regardés dans les yeux. J'ai dit, mes amis, écoutez, je suis scientifique comme vous. Mais écoutez bien ce que je veux vous dire. Même si vous me prenez pour un idiot, pour moi, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. J'ai dit, vous me prenez pour un idiot. Pour moi, c'est Dieu qui a créé. Je n'ai pas... Écoutez, je rentrais dans le bureau de ma chef, je lui disais, écoute, je ne veux pas nommer son nom. Je dis, est-ce que tu sais que Dieu est réel? Je n'ai pas besoin. Si elle me chasse du boulot, j'aurai un autre boulot. Ah non, frères et sœurs, j'ai pris position dans ma vie. Je dis, quand je me suis converti, j'ai dit à Dieu, je ne viens pas pour m'amuser. Je viens parce que j'ai vécu dans le paganisme, j'ai vécu dans la sorcellerie, je sais ce que c'est le monde mystique. Je viens à toi, c'est pour prendre position contre et envers tout. Ma famille aujourd'hui est fâchée contre moi parce qu'elle dit tu gaspilles le potentiel. Tu serais un homme riche et la famille en bénéficierait. Mais moi je dis j'ai choisi Jésus. C'est comme ça, frères et sœurs. Je prends position. Je dis j'ai choisi Jésus. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas grand chose, mais j'ai Jésus et ça me suffit. C'est ça, frères et sœurs. Si nous ne prenons pas position, Satan va nous malmener. Il va nous malmener. Et si bien que, à mon labo, maintenant les gens savent, quand ils savent, dès lors qu'ils avaient su que j'étais chrétien, maintenant, quand ils avaient envie de critiquer, ils savaient qu'il ne fallait pas le faire devant Ulrich. Et la fille qui tournait autour de moi, je lui avais dit, tu sais, moi, pas de rapport sexuel avant le mariage, elle s'est barrée. C'est simple. La Bible nous dit que la vérité nous rend libres. Alors, j'avais dit ma vérité, j'étais libre. Et vous savez comment je suis rentré ce jour-là? Je planais. Je suis rentré, j'habitais à l'époque à côté là. J'étais heureux, je dis Seigneur, mais tu m'as libéré, je suis allé louer Dieu. Je dis j'avais le poids. Parce que ne pas dire ce que je suis, c'est comme si j'étais un hypocrite. Les gens ne savent pas. Ils vont me dire on va faire ceci, tu es obligé de faire. Voilà. Non, frères et sœurs. Ce n'est pas pour mépriser. Je ne dis pas que je suis meilleur que quelqu'un. Non. Frères et sœurs, Daniel, vous connaissez son histoire, la fosse au lion. Là aussi, Dieu l'a délivré. Il était tout seul. La Bible dit qu'ils étaient dedans. On va. Vous connaissez toutes ces histoires, frères et sœurs. Vous connaissez l'histoire de Marie. Marie, la mère de Jésus. On va conclure avec ça. Vous connaissez l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, Marie était une jeune fiancée, oui ou non? Et Marie lui a dit, mais écoute l'ange, moi, je sais que sur la terre, pour qu'une femme puisse concevoir, il faut qu'elle aille avec un homme. Et là, l'ange lui dit, non, le Saint-Esprit va venir sur toi. Est-ce que vous savez le risque que Marie a couru? Vous savez qu'à l'époque de Marie, le fait d'être tombée enceinte, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Joseph voulait quoi, la quitter, oui ou non? Parce que oui, Joseph a dû se dire, mais Marie, toi et moi, on n'est pas encore allé plus loin. Comment ça se fait que tu aies déjà un ventre qui a bien poussé? Je vois qu'il n'y a que ton ventre qui pousse. Qu'est-ce qui se passe? Et là, l'ange va dire à Joseph, ne t'inquiète pas. C'est le Messie qui est dans le ventre de Marie. C'est le Sauveur qui est dans le ventre de Marie. Marie a défié quoi? Toute sa tradition. Elle pouvait être lapidée rien qu'à cause de ça. Elle a défié son monde autour d'elle. Elle a accepté ce qui est une folie aux yeux des êtres humains. Notre entendement ne peut pas accepter ces choses-là. Mais Marie a pris position. Elle a dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Toujours selon sa parole. Frères et sœurs, si nous ne prenons pas position, je vais arrêter là mon message. Je crois que j'ai assez parlé. Si nous ne prenons pas position, nous aurons du mal à voir la gloire de Dieu. Nous aurons du mal à voir. Prendre position ne veut pas dire qu'il faut aller imposer aux autres ce que Dieu nous demande de faire. Non, non, non. Les chrétiens sont champions dans ça. Les chrétiens sont champions, surtout dans leur famille. Ils veulent appliquer une moralité chrétienne à des gens qui sont morts. Vous avez déjà vu un mort capable de quoi que ce soit? Les gens qui ne connaissent pas Dieu, la Bible dit qu'ils sont morts, oui ou non? Alors, pour que quelqu'un comprenne les choses de Dieu, il faut qu'elle revienne d'abord à quoi? À la vie! Tu vas dire à quelqu'un, oh, c'est pas bien de fumer. Mais lui, il trouve que c'est bien. Toi, tu lui dis ça parce que tu es dans la vérité, tu es dans la lumière. Est-ce que ça va lui apporter quelque chose? Non, il est mort. La première chose, c'est d'intercéder pour que la personne puisse d'abord donner sa vie à Jésus. Et quand la personne donne sa vie à Jésus, ses yeux s'ouvrent. Et quand les yeux s'ouvrent, on se rend compte de ce qu'on fait. Et là, on demande à Dieu sa grâce. Frères et sœurs, levons-nous ensemble ce matin, rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es venu nous chercher dans la boue de notre désolation. Tu nous as lavés. Tu nous as sanctifiés. Tu nous as donné le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, nous ne voulons pas négliger ce que tu nous dis, parce que tu opères par ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas simplement être des chrétiens théoriques qui passent leur temps à discuter des choses sans les mettre en pratique. Parce que tu dis que celui qui est heureux, celle qui est heureuse dans son activité, ce sont celui et celle qui mettent ta parole en pratique. Seigneur, ce matin, tu nous as rappelé que pour voir ta gloire, nous devons prendre position. Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous vraiment à prendre position dans des situations parfois incertaine, aide-nous à prendre position. Alors Père, voici ton peuple qui s'est levé ce matin. Aide ton peuple à prendre position, Seigneur, dans les lieux où nous sommes, là où nous travaillons, Seigneur, dans nos familles, aide-nous à prendre position. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.